les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, dans votre magazine qui a pour thème ce soir « De l'espoir loin de chez soi » tiré du thème de la célébration 2023 de la Journée mondiale de réfugiés. Pour en parler, je suis en direct de Paris avec Isabelle Cauchois, directrice de la Maison Bakita, qui est une association du diocèse de Paris. Bonsoir Isabelle et surtout merci de nous recevoir dans vos locaux.
Bonsoir.
Pourquoi la Maison Bakita? Pourquoi elle existe?
Alors la Maison Bakita, elle est née dans l'esprit du diocèse de Paris il y a 4-5 ans déjà. En fait, l'idée c'était de répondre à l'appel du pape François qui appelait tous les chrétiens à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les personnes migrantes. Et donc la maison, elle a ce but. Elle a le but d'une part d'éveiller les consciences, de sensibiliser les personnes à cet accueil. Donc ça passe par la formation des bénévoles, par l'accompagnement de tous les projets qui peuvent avoir lieu sur le diocèse. Mais elle a aussi pour but, parce qu'on a la chance d'avoir une grande maison de 1000 m², d'accompagner et de former ces personnes directement pour leur donner de l'espérance, je crois que c'est le thème en plus, voilà, oui, et pour leur donner davantage de capacité d'agir pour bien s'intégrer. Donc voilà, et enfin, la dernière mission, ça va être de faire en sorte que ces gens se sentent accueillis, à leur place, attendus, qu'on leur propose une ambiance fraternelle, familiale, pour qu'ils se sentent, parce que le regard qu'ils peuvent avoir sur eux n'est pas toujours facile, avoir au moins un endroit où ils peuvent se poser, un espace de paix et d'écoute aussi pour elles.
Et pourquoi le nom Bakita? Ça a une signification particulière?
Oui, alors Bakita, en fait, c'est une sainte. C'est la première sainte du continent africain. Bakita, c'est une petite fille née au 19e siècle qui vient du Soudan, du Darfour. Et en fait, elle a été enlevée quand elle avait 7 ans dans son village pour être vendue, donc on a l'époque de l'esclavagisme, pour être vendue à des marchands d'esclaves. Donc en fait, Bakita, c'est même pas son vrai prénom parce qu'elle a eu un tel traumatisme qu'elle a tout oublié de sa famille et elle a même oublié son nom. Et en fait, Bakita, je crois qu'en arabe, ça veut dire la chanceuse. C'était le nom que lui avaient donné des marchands d'esclaves arabes parce qu'elle était jolie et que donc il disait bah, « tu as de la chance parce que ça va t'aider à t'en sortir ». Et donc, à force d'être vendue à d'autres marchands, elle s'est retrouvée vendue à un consul italien et donc qui l'a emmenée en Italie. Et lui était une personne humaine. Et voilà, parce que malheureusement, elle a vécu des tortures, des choses très, très, très difficiles. Mais elle a toujours gardé beaucoup d'espoir en elle. Et quand elle est arrivée en Italie, cette personne étant bonne, elle lui a permis de s'instruire auprès d'une école tenue par des sœurs. Et donc elle a découvert comme ça ce que c'était que la religion. Et en fait, elle avait toujours eu l'intuition que quelque chose de plus grand l'accompagnait. Et là, elle s'est dit, ah ben voilà, c'est ça en fait, c'est Jésus. Et donc elle est devenue chrétienne et elle a voulu devenir religieuse. Et c'est comme ça qu'elle est devenue sainte après. Et donc pourquoi on a choisi ce nom? Parce qu'en fait, on trouvait que le parcours qu'elle avait eu pouvait être un modèle d'inspiration pour les personnes que l'on accueille. D'une part, comme je vous le disais, parce que malgré les horreurs qu'elle a vécues, elle a toujours gardé l'espoir que quelque chose de meilleur l'attendait. Donc il y a cette force d'espérance qui l'a toujours poussée en avant. Elle a eu un parcours aussi de pardon. Très fort, elle a toujours pardonné à tous ses bourreaux, et pourtant elle en a vu vraiment de toutes les couleurs. Et voilà, et de ce parcours de résilience aussi, parce que bah, au-delà de tout ce qu'elle a pu vivre, de toutes les personnes qu'elle a perdues, accompagnées et perdues au long de son chemin, bah, elle s'est toujours relevée, quoi. Et elle était assez extraordinaire, parce qu'en plus, à travers les écrits qu'elle a laissés, elle a tenu une espèce de journal de sa vie, vers la fin de sa vie. Et en fait, on voyait qu'elle avait beaucoup d'humour. Et moi, ça me touche parce que j'adore l'humour. Et je pense que même quand on accueille des personnes, j'essaie toujours de les faire rire parce que ça crée la complicité, etc. Et je me dis, bah voilà, enfin, c'était une femme qui avait de l'humour malgré tout ce qu'elle avait vécu. Et voilà pourquoi on a choisi Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, une fois, il y a un couple à l'accueil d'Africains qui ont vu le panneau avec son visage et ils ont demandé qui c'était, donc je leur ai expliqué. Et le monsieur a dit à la dame, tu vois, elle est noire comme nous. Et je me dis, bah, je trouve ça chouette que les gens puissent aussi s'identifier à des modèles qui leur ressemblent, en fait, quoi. Voilà. Et pas que des blancs, sains. Voilà.
Les personnes que vous accueillez chez vous sont de personnes migrantes, sans papier ou avec papier, ou comment ça se passe?
Alors, en fait, on est dans un accueil inconditionnel, donc on accueille tout le monde. Grosso modo, on va dire qu'on a à peu près la moitié de personnes qui n'ont pas de papier. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des primo-arrivants, qui n'ont même pas encore entamé de démarche. Une fois, par exemple, on a eu un jeune homme qui venait d'arriver en France depuis 2 jours. Donc, lui, il était complètement paumé, il ne connaissait rien, ni où se laver, ni où manger. Voilà, donc on a dû vraiment tout lui expliquer. Et puis, des fois, voilà, des gens qui sont en procédure de demande d'asile, donc qui ont dans l'attente qu'on leur donne des papiers. D'autres qui ont été déboutés, c'est-à-dire à qui on a déjà dit non, mais qui vont réessayer, refaire une demande. Ou des gens qui ont un statut de réfugié, mais ça, c'est très minoritaire. Voilà, donc ça va être surtout sans papier, demandeurs d'asile, grosso modo. Et de temps en temps, on a aussi des gens qui sont en France depuis 30, 40 ans, mais qui ont vécu un peu en vase clos. Par exemple, beaucoup des femmes qui ont élevé leurs enfants, qui ne travaillaient pas, qui étaient à la maison, donc qui parlaient que leur langue, ou qui avaient des voisines ou des amis qui parlaient aussi la même langue, et donc qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à parler français et de sortir de chez elles, et qui se rendent compte, parce que les enfants sont partis, parce que peut-être qu'elles sont veuves aujourd'hui, etc., que... En fait, elles peuvent pas se débrouiller toutes seules et qui viennent dans notre structure apprendre le français, par exemple.
Et depuis l'ouverture de la maison Bakita, vous avez déjà accueilli combien de personnes?
Alors, on a ouvert nos portes en septembre 2021 et on a accueilli plus de 1200 personnes qui sont venues jusqu'à nous. Donc, ça peut être soit juste pour une occasion, comme un rendez-vous psy, puis la personne ne revient pas. Ou ça peut être 3 fois par semaine depuis 2 ans parce que la personne suit des cours de français. Voilà.
Et qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors concrètement, ce qu'on leur propose, c'est différentes activités et formations pour les aider à retrouver une situation plus digne et à améliorer leur parcours d'intégration, on va dire. Donc ça va des cours de français, alphabétisation, ateliers de conversation, de l'accompagnement vers l'emploi, un atelier interculturel pour comprendre un peu c'est quoi la culture française. On propose des formations. On a une formation à la cuisine avec un partenaire, une formation à la couture avec un autre partenaire, du numérique, un atelier bricolage. On a quelques activités socio-culturelles comme demain matin, par exemple, on fait de la musique, on va faire des arts plastiques, du sport. Et puis, on a des services comme par exemple une crèche qui est un vrai besoin parce que beaucoup de femmes... qui ayant un enfant en bas âge n'ont personne pour s'en occuper, donc pour trouver un petit travail, pour se former, voilà, c'est nécessaire. On a aussi une psy, on a un médecin et on ouvre notre cuisine à des familles qui souhaitent cuisiner, qui ne peuvent pas cuisiner dans leur chambre d'hôtel social parce que c'est interdit, et qui peuvent avoir envie de temps en temps de faire un vrai plat dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité.
Et parlons un peu de l'atelier de rencontre. Alors, les personnes que vous accueillez rencontrent qui, disent quoi ou comment? Ça se passe comment?
Ok. Alors, en fait, 60% des personnes sont orientées par d'autres structures qui font de l'accompagnement social que nous ne faisons pas. On n'a pas de travailleurs sociaux, d'accord? On va arriver en deuxième ligne après ce premier accueil. Donc, par exemple, on peut avoir un centre d'hébergement ou une assistante sociale qui vont nous adresser des personnes pour participer à l'une ou l'autre de nos activités. Donc, la personne va venir se présenter. Il y a une inscription qui se fait en bonne et due forme, où on explique aussi un peu les règles de la maison, etc. Et après, la personne, donc il y a ce premier accueil qui se fait qu'un bénévole à l'accueil. Et ensuite, la personne va directement intégrer les activités de la maison. Donc, si on lui dit, bah voilà, votre cours de français, c'est lundi à 14h, mercredi, etc., la personne va venir directement après dans son activité. Et une fois qu'elle est dans son activité, à force de fréquenter la maison, elle peut aussi voir, bah tiens, là, il y a une affiche qui me dit qu'on va fêter la galette des rois, l'épiphanie, tel jour, je vais venir. Tiens, là, on me propose un atelier de musique, bah, ça m'intéresse aussi, je vais venir. Mais on commence toujours par une chose. Parce que des fois, il y a des personnes qui... ont envie de faire plein de trucs et qui vont dire oui, ça m'intéresse, mais bon, on sait par expérience que vaut mieux faire un truc au début et après faire d'autres choses, quoi. Voilà. Mais donc, il n'y a pas d'accompagnement personnel au sens propre. On n'a pas, nous, de gens qui sont spécialisés dans cet accompagnement personnel, quoi.
Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination manquée. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. Affronter la mer, les vagues, les océans et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. Nalélie, j'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères.
Et vos formations sont-elles payantes?
Non, alors tout est gratuit ici, sauf la participation à la crèche, parce que ce sont des vrais professionnels, donc il faut quand même que la crèche puisse avoir un équilibre financier. Donc et ça, c'est de l'ordre de 40 centimes de l'heure, donc c'est vraiment accessible. Et nous, Maison Bakita, c'est déjà arrivé quand on a des parents qui ne peuvent pas régler une facture, qu'on propose de la prendre en charge. Voilà. Mais après, si ça devient régulier, on essaie de voir avec la famille, bah peut-être qu'il faut réduire le volume de présence de l'enfant aux ressources réelles dont il dispose, quoi.
Et vos formations sont-elles certifiantes et ou qualifiantes ?
Nos formations, la formation cuisine, elle est professionnalisante, effectivement, parce qu'elle permet d'avoir deux stages et de passer un titre professionnel de cuisinier à la fin. Mais pour cela, il faut avoir l'autorisation de travailler en France.
Donc là, il faut avoir des papiers.
Voilà, là, il faut des papiers. Pour les autres formations, ce n'est pas le cas, mais elles ne sont pas certifiantes. Nous, on délivre à chaque fois une attestation en disant, voilà, la personne a acquis telle et telle compétence pour pouvoir le justifier auprès d'un employeur ou pour mettre dans leur dossier, parce que ça montre aussi que les gens sont en projet et sont actifs. Voilà. Après, l'atelier couture, qui est géré par une autre association, c'est pour des femmes qui sont issues de cette association, qui s'appelle Au Captif, la Libération. Donc là, c'est encore un autre fonctionnement.
Ah, donc vous travaillez en partenariat avec d'autres associations?
Oui, exactement.
À qui vous orientez des bénévoles?
C'est ça, exactement. On travaille, alors, dans l'ensemble de toutes les structures, il y a plus de 80 structures qui nous orientent des gens. Et dans la maison, on a 4 associations qui sont présentes, même 5. 5 associations qui sont présentes chaque semaine et qui font vraiment vivre la maison avec nous.
Vous avez dit vous-même, Isabelle, que vous accueillez les gens, mais vous n'assurez pas le logement. Pourquoi ?
Alors, On pourrait faire tous les services, mais il faut à un moment donné choisir quelle est notre mission. Et faire l'hébergement, c'est un métier. Et pour l'instant, nous, c'est pas le nôtre. Donc nous, on va se trouver dans le positionnement de dire on va aider les personnes à s'intégrer en France, à orienter, mais on n'est pas une structure d'hébergement.
Mais vous n'estimez pas que si une personne migrante s'y pointe en France pour la première fois, la personne cherche d'abord où mettre la tête, un toit où dormir, plutôt que de participer d'abord à une formation qui viendra par la suite.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on n'est pas une structure de premier accueil. On arrive, nous, en deuxième ligne. Donc d'abord, il y a un accompagnement social qui est indispensable par un de nos partenaires, qui lui va faire en sorte de la personne à avoir des papiers, à avoir des moyens de subsistance, avoir l'aide médicale d'État ou ce genre de choses, et un hébergement. Et quand la personne, elle a déjà cette base, de pouvoir faire en sorte d'aller plus loin. Et donc, c'est là qu'on intervient.
Et vous est-il aussi arrivé d'être en contact où les personnes que vous avez aidées dans le passé reviennent encore vers vous ?
Oui, exactement. En fait, souvent, les gens vont développer un lien d'attachement avec nous, avec l'équipe. On a deux sœurs, notamment, qui sont dans la maison et donc ont une attention particulière aux personnes, dans l'écoute, dans l'aller vers, prendre soin des gens. Et donc, souvent, il y a des gens qui développent une forme d'amitié avec nous, qui viennent nous donner des nouvelles, qui repassent régulièrement, même s'ils n'ont rien de particulier à venir faire. Et moi, ça me touche beaucoup quand ces gens-là disent « De toute façon, ici, maintenant, c'est ma maison. » Donc, ça, je trouve ça très chouette. Je me dis, on a réussi quelque chose. Et puis, on a beaucoup aussi, de plus en plus, de personnes exilées qui sont bénévoles chez nous. Parce qu'elles ont, d'une part, envie de rendre service, de contribuer à un projet dans lequel elles trouvent que ça a du sens. D'autre part, de se rendre utile, d'utiliser leur temps. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, donc ils se trouvent un peu désœuvrés et qui ont besoin d'avoir cet engagement social, leur donner des horaires, des objectifs dans la journée, etc. De faire bénéficier de leurs compétences. Par exemple, on a une prof d'alphabétisation ivoirienne qui était institutrice dans son pays. On a un prof d'alphabétisation aussi qui est haïtien et qui était dans la littérature. Donc des gens qui ont des compétences et qui peuvent les mettre à disposition. Et puis, nous, ça nous permet d'avoir cette ouverture aussi dans l'équipe de bénévoles, de ne pas avoir que des retraités français qui viennent d'être bénévoles, mais d'avoir un peu aussi ce mélange-là, qui est chouette, quoi.
Et dans la maison Bakita, il y a des salariés, il y a des bénévoles, ou il n'y a que de bénévoles ?
Voilà, c'est ça. Dans la maison Bakita, nous, on est 3 salariés. Donc actuellement, on a aussi une volontaire en service civique et bientôt une stagiaire. Et après, les partenaires qui sont présents dans la maison, eux, eux aussi des salariés. Donc, ils sont, eux, une dizaine. Nous, on est 3. Il y a à peu près 80 bénévoles qui se relayent. Donc, ça va de tâches comme tenir l'accueil, former aux Français. Ça peut être tous les sujets. Et puis, on a 2 religieuses, donc, comme je disais, qui vivent dans la maison et qui sont très impliquées à la fois dans des choses très opérationnelles, comme faire toutes les courses... des denrées et de la formation cuisine, ou célébrer, préparer des messes, organiser des temps de spiritualité, ou juste être présent avec les personnes pour les écouter et puis créer ce lien. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Transcendence. It played in mono, painted blue. You were the Piero. I was the dark room. I'm the shining light in your eyes.
and on the road, I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself.
La maison Bakita, c'est une structure d'accueil catholique et vous avez, par rapport à votre public, vous accueillez des gens de différentes confessions religieuses ou bien vous vous limitez juste aux catholiques?
Alors,
ou aux chrétiens, si vous voulez.
Donc la maison Bakita, comme je disais, elle est dans un accueil inconditionnel. Et même si on se rapporte au terme même de catholique, ça veut dire universel. Donc pour nous, c'est très important d'être vraiment ouvert à tous. Ça nous a posé absolument aucun souci jusqu'à présent. Les gens savent très bien où ils mettent les pieds. Voilà, ils voient qu'il y a des religieuses, que des fois il y a des messes, qu'il y a un oratoire avec une croix, etc. Donc ils savent très bien que c'est une maison chrétienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect vis-à-vis de ça. Voilà, on n'a pas fait de statistiques, mais je dirais qu'il y a peut-être presque la moitié de personnes qui sont musulmanes, que ce soit des Afghans, des gens d'Afrique de l'Ouest. Même parmi nos bénévoles, on a des bénévoles à l'accueil qui sont musulmans et qui sont très respectueux. Et je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ce que fait l'Église pour ce public. Et voilà, et ça se passe très bien. Nous, notre positionnement, c'est pas d'être dans l'annonce explicite. C'est plutôt un témoignage de foi par l'action, en fait. Voilà, c'est de dire, bah voilà, les gens savent que nous, on est chrétiens et que si on fait ça, c'est au nom de notre foi. Et donc après, si ça doit toucher des gens, bah, ça les touchera. Notre but n'est évidemment pas de convertir qui que ce soit, quoi.
Vous êtes basé à Paris et toutes les personnes qui viennent vers vous sont de Paris ou dépendent aussi d'autres banlieues parisiennes?
Alors la moitié des personnes qui viennent sont du 18e arrondissement. Donc il y a quand même un rayonnement local qui est très fort. Orienté par tout un tas de structures sociales. Et ensuite, on a un quart de personnes qui viennent de tout Paris. Et puis, un quart de personnes qui viennent de toute l'Île-de-France, voire parfois même au-delà de l'Île-de-France. Donc voilà, et c'est très large et ça peut aller de Meaux à Mantes-la-Jolie, à l'autre bout du département, dans l'Essonne. Donc pas mal de gens du 93 aussi. Voilà, donc c'est assez diversifié quand même.
Et comment ces personnes savent que vous existez?
Alors, la majorité des personnes, ça va être parce qu'elles sont orientées par la structure qui les accompagne, que ce soit un centre d'hébergement, un centre social, un avocat, une assistante sociale, etc., ou une paroisse. Et après, il y a beaucoup de bouche à oreille dans les communautés. Voilà, parce qu'un tel a commencé à prendre des cours de français, donc il va en parler à ses amis, ils vont venir avec lui pour l'inscrire, etc. Donc ça marche comme ça. Et puis après, des fois, il y a des hasards aussi, des gens qui nous disent bah, « j'ai vu ça sur Internet ». Ou à l'occasion d'un reportage, ils ont vu ça à la télé ou sur une émission. Voilà, donc, mais ça reste minoritaire quand même.
Et vous êtes satisfaite de ce que vous faites au quotidien?
Oula, c'est une question difficile ça. Alors oui, moi je suis très satisfaite en tout cas de travailler ici. C'est très gratifiant parce que je sais pourquoi je me lève le matin et je vois un impact direct. En fait, le fait d'avoir même si j'aime pas le mot, les bénéficiaires directement en face de nous tous les jours, ben, on sait pourquoi on se démène et on sait que ça a du sens de faire tout ça. Après, ce qui peut être un peu frustrant, c'est qu'on voit l'ampleur de tout ce qu'on pourrait faire et avec les moyens dont on dispose, ce qu'on peut faire vraiment. Donc voilà, il y a toujours cette petite frustration à gérer parce que ben, le temps des journées n'est pas infini. On a aussi nos vies à côté. Voilà, moi je ne suis pas H24, heureusement, parce que sinon, on se rendrait malade sur le projet. C'est normal qu'on ait une vie à côté. Mais voilà, on a énormément de marge de développement encore. Il y a énormément de projets qu'on peut encore faire. Il y a énormément de besoins. Donc ça, c'est à la fois très motivant et puis des fois un petit peu frustrant parce qu'on voudrait faire beaucoup plus. Et On est toujours limité par les ressources et humaines et en temps dont on dispose, quoi.
Et parlons de la formation de couture. Est-ce que les personnes qui apprennent, quand elles sortent avec un bagage, c'est-à-dire elles sont capables de faire une robe, je ne sais pas moi, ou...
Alors, l'atelier couture, il est porté par une association qui s'appelle Au Captif La Libération, qui travaille avec des gens issus de la rue. Donc, en fait, ce sont des femmes qui ont tout un accompagnement social très spécifique. Et elles ont un agrément préfectoral, comme les compagnons d'Emmaüs, qui leur permettent de toucher un peu d'argent pour leur travail, même si elles n'ont pas de papier. Donc, c'est un statut très, très particulier. Il y a très peu d'assos en France qui l'ont. Donc, en fait, elles travaillent dans la semaine. Elles gèrent des commandes qu'elles reçoivent, qui viennent d'associations, de particuliers ou d'entreprises. Et elles touchent un petit pécule à la fin de chaque semaine qui leur permet de rémunérer un petit peu pour leur travail. Et donc, quand elles sortent, effectivement, ben, elles passent d'un état où elles ne connaissaient pas du tout la couture à un état où elles sont capables de réaliser des petites tenues pour des enfants, pour les mariages, vraiment des choses très... très bien faite, quoi, très qualitative.
Et généralement, ça prend combien de temps comme ça de formation?
Alors, de mémoire, c'est 18 mois, le parcours. Voilà. Et donc, l'association les accompagne aussi vers la régularisation. C'est le but, justement, de ce parcours-là. C'est apprendre un métier. Après, elles ne restent pas forcément dans la couture, ces femmes. Hein. Elles peuvent faire d'autres choses. Mais en tout cas, la couture, c'est plus un vecteur de mobilisation pour reprendre un rythme, apprendre à travailler, à respecter un cadre, etc., etc. Take a step, watch the ground, rise to meet your feet somehow. When all that you are just ain't enough.
Alors Isabelle, à la maison Bakita, vous préférez le terme exilé qui est migrant. Pourquoi?
Alors en fait, c'est un point sur lequel la maison Bakita a évolué depuis son ouverture. En fait, on s'est rendu compte qu'en dans le secteur associatif avec lequel on travaille, les professionnels parlent plus d'exilés que de migrants aujourd'hui. Parce que d'une part, le terme migrant est devenu assez péjoratif, notamment à travers la vision donnée par les médias. Et puis aussi parce qu'il y a l'idée de transit qui n'est pas forcément réelle. La majorité des personnes que l'on accueille ont envie de vivre en France, de trouver un travail, de s'insérer comme tout le monde. Donc on n'est pas dans forcément des gens qui ne font que passer et qui veulent partir ailleurs. Donc, et puis c'était un terme aussi, je crois, dans lequel les gens ne se reconnaissent pas forcément. Donc voilà, il y a ce terme qui est peut-être pas idéal non plus, hein, mais je sais pas s'il y a un terme qui est idéal, qui voilà, mais qui en tout cas dit voilà, ce sont des personnes en situation d'exil, parce qu'il peut y avoir, en fait, il y a 1000 histoires différentes, il y a 1000 raisons différentes de quitter son pays, donc c'est compliqué de voilà de dire bah, c'est pour telle raison, c'est pour telle autre, donc voilà, c'est un terme qui veut dire bah voilà, c'est quelqu'un qui a quitté son pays, quoi, qui a vécu un exil.
Selon l'appel du pape François du 21 février 2017 que vous avez eu à concrétiser ces projets, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, vous n'estimez pas qu'au contexte actuel, accueillir, promouvoir, donc tout ce que le pape a souhaité, ça ne devient pas un fardeau pour le pays qui accueille en fin de compte?
Non. Vous vous doutez de ma réponse.
Effectivement.
Ouais. Moi, là, je parle très personnellement. Enfin, je parle très personnellement. Puis en même temps, c'est aussi la position de l'Église. Hein. C'est de dire que, en fait, la rencontre, elle est toujours une richesse. L'ouverture, elle est toujours une richesse. D'une part, l'humanité, elle est faite de migration. Aucune période de l'humanité n'a connu une migration. Si les gens affirment l'inverse, c'est faux. Enfin, on le sait. Hein, ça a toujours
on le
été
sait,
des
avec
brassages.
Abraham dans la Bible déjà.
Voilà, ça a toujours été des brassages, etc. D'autre part, on est convaincu que cette ouverture et cette rencontre avec l'autre, ça nous déplace et ça nous fait évoluer. Enfin, voilà, j'ai à recevoir de toi, tu as à recevoir de moi, et voilà, comment on peut grandir ensemble. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que après, faut pas non plus évidemment tomber dans une vision naïve en disant mais c'est formidable, accueillons, abolissons toutes les frontières, ce sera facile, il y aura jamais aucun problème. Je vais pas dire ça parce que
donc vous êtes d'accord pour une immigration structurée.
Moi, je vais pas me positionner politiquement parce que c'est pas, on fait pas nous de plaidoyer, mais voilà, j'entends aussi que ça peut être compliqué parfois. J'entends aussi les peurs des gens, mais vous savez, moi-même je suis issue d'immigration, en fait mes parents, mon père est portugais, il est arrivé en France pendant la dictature en clandestin, ma mère elle est italienne, donc voilà, enfin je me dis, ce que mes parents ont reçu, moi j'ai envie de l'apporter aux gens d'aujourd'hui, et même sans considérer les positionnements de il faut ouvrir, il faut pas ouvrir, la question elle est même pas là, la question est de dire, il y a des tas de gens dans nos rues qui sont là. Donc, c'est même pas le sujet de savoir ce qu'ils doivent venir ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si on les voyait pas et on les laisse mourir dans la rue? Ou est-ce qu'on essaie de tendre la main et de se dire, bah, ok, enfin, faisons société ensemble et on va vous aider, parce que c'est aussi l'intérêt de la France. Et puis, économiquement, ça a été prouvé, et c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques, que l'immigration, elle apporte une plus-value, en fait, à l'économie, quoi. Donc, voilà.
La maison Bakita est-elle ouverte tous les jours?
Alors, elle est ouverte surtout en semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Et puis, ponctuellement le samedi, mais pas ouverte au public, ouverte à des activités qu'on accueille. Et pour l'instant, le dimanche, on la garde comme journée off, pour que les personnes qui vivent sur place puissent avoir quand même une journée de répit.
Et ces personnes-là, donc, les exilés, sont-ils ponctuels dans les activités régulières?
Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a deux choses. Il peut y avoir... il faut savoir, et ça, je pense que c'est partagé par beaucoup d'associations, il faut savoir que c'est un public qui est parfois un peu volatile, qui a peut-être un peu difficulté à être régulier. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est deux choses. C'est, d'une part, ce sont des gens qui ont une vie compliquée. Donc, quand on a des rendez-vous à la préfecture... Quand on a un petit boulot où il faut pouvoir trouver une subsistance, etc., bah on ne peut pas venir gentiment à des cours comme si on était un lycéen français et qu'on n'avait que ça à penser dans sa vie, quoi. Donc déjà, il faut vraiment faire preuve d'empathie pour comprendre ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas exiger une régularité, etc. Mais il faut quand même voilà, faire preuve de compréhension vis-à-vis de situations de vie qu'il rencontre. Puis quand on a besoin de chercher à manger, de pouvoir se vêtir, se loger, donner à manger à ses enfants. Et voilà, enfin, il y a aussi d'autres contraintes, quoi. Et puis après, sur, ça c'est plus anecdotique, sur le respect, on va dire, des horaires, à la maison Vaquita, je me suis amusée à compter, on a accueilli 59 nationalités différentes. Donc ça peut être 59 façons d'avoir une relation au temps différente. Donc dans énormément de pays du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, etc., le rapport au temps, il est différent qu'en France, par exemple. Donc parfois, pour des gens, bah, même si on dit que le cours est à 2 heures, bah, ils peuvent arriver plus tard. Voilà. Il ne faut pas non plus se formaliser, il faut rester très souple.
Mais ça ne perturbe pas...
Ça peut perturber un peu, oui. Ça peut perturber. Mais voilà, il faut aussi comprendre qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes référentiels. Et ça, c'est l'intérêt aussi pour les bénévoles de se former, justement, aux différences interculturelles. Par exemple, je sais que dans plein de pays, le fait d'être ensemble, la relation à l'autre, elle prime sur l'efficacité.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, par exemple, si le matin, il faut passer une demi-heure à parler pour se demander des nouvelles de la famille et voir comment vont les gens, c'est pas grave si la réunion va commencer plus tard, parce que déjà, on a été ensemble. Voilà. Et il y a ce lien qui a été respecté de salutations, de prendre des nouvelles de l'autre et tout ça. Donc voilà, ça, ça fait partie de la formation interculturelle et l'ouverture qu'on doit avoir, quoi.
Et qu'est-ce que la maison Vaquita ne fait pas pour les exilés ?
Alors, ce qu'elle ne fait pas, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va concerner plutôt l'urgence. Donc, on ne distribue pas de nourriture ou de vêtements, on n'héberge pas, comme on en parlait tout à l'heure. Et socialement, on n'est pas compétent là-dessus, on n'a pas de personnes qui travaillent sur le sujet, donc pas de travailleurs sociaux. Et tout ce qui va être juridique, tout ce qui est administratif, si vous voulez, on le laisse vraiment aux acteurs qui sont compétents. Donc, si on a des personnes qui viennent en disant, voilà, aidez-moi à avoir mes papiers, etc., on va les rediriger vers des acteurs compétents, comme la CIMAD, par exemple, le Secours catholique pour tout ce qui va être social, et si c'est l'hébergement, ça peut être Utopia, le 115, etc., quoi.
Et êtes-vous convaincu que tout ce que vous faites pour eux contribue à leur intégration en France ?
On l'espère, en tout cas. Voilà, on va justement vous poser la question. Et bientôt, là, on va lancer une mesure d'impact social. Ça veut dire qu'on va interroger tout un tas de bénéficiaires, et puis nos partenaires, puis nos bénévoles, pour qu'ils arrivent à exprimer ce à quoi la Maison Vaquita leur sert, en fait, et le bénéfice qu'ils en retirent. Et ça nous permettra d'objectiver, justement, notre action. Moi, j'ai le sentiment que ça sert à quelque chose, mais voilà, je suis curieuse d'entendre ce que les gens auront à nous dire là-dessus.
Et une question d'ordre personnel,
ouais.
Donc c'est votre regard, au fait, dont nous en avons besoin. Quand vous recevez ces exilés, quand ils viennent, ils défilent chez vous, vous vous dites quoi quand vous le regardez ?
Ce que je me dis déjà, c'est que j'ai envie que la personne, j'ai envie de l'aider à aller mieux. J'ai envie de l'aider à être heureuse. Je pense que ça, c'est ma vocation d'être humain, déjà. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé dans l'associatif. Je ne peux pas concevoir un travail dont le but serait de faire de l'argent. Mais ça, c'est très personnel. Voilà, je ne juge pas, mais c'est ma vision des choses. Donc, moi, il faut que j'ai un travail où je me dis, je contribue à aider les gens, au bien commun, on va dire. Donc, ça, déjà, je me dis ça. Et puis, en tant que chrétienne, je me dis aussi, moi, j'ai un devoir d'espérance vis-à-vis de ces gens. Il y en a beaucoup qui ont vécu des choses horribles, des parcours très difficiles, qui ont été déboutés une fois, deux fois, qui vivent sous tente, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire en sorte que cette personne, elle reparte un peu reboostée, avec le sourire ? Même si on n'est pas des magiciens, on ne va pas faire de miracles. Mais qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Donc, voilà. Et ce que je vois, surtout quand les gens rentrent, j'essaie toujours de voir, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et après, vis-à-vis de mon histoire perso, je me dis, ok, mon père, il est arrivé, il a vécu, je pense, même s'il ne nous l'a jamais dit, dans un bidonville, parce que les Portugais étaient mis dans des bidonvilles à l'époque, en Seine-et-Marne d'ailleurs. Voilà, et je me dis, ce type-là qui vient de rentrer, qui a 20 ans, ça pourrait être mon père, il y a 50 ans en fait, quoi.
Alors Isabelle, vous est-il arrivé de recueillir un témoignage d'un exilé ?
Beaucoup. ouais, beaucoup. Alors, nous, on a une règle, c'est qu'on ne pose pas de questions sur le parcours des personnes. On ne demande pas pourquoi vous êtes venu en France, par quel pays vous êtes passé, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Parce qu'on sait que ça peut réveiller des choses très difficiles. En revanche, quand au bout d'un moment on est dans la confiance et tout ça, ça peut sortir spontanément. Et si ça sort, bah, on l'accueille, évidemment, on écoute, quoi. Donc voilà. Donc je pense à un jeune en particulier qui a 16 ans, donc était mineur non accompagné et qui venait faire des activités chez nous. Et puis à un moment donné, qui n'allait pas bien. Et puis un jour, j'ai parlé très longuement, avec lui. Et en fait, il m'a avoué qu'il avait vécu un abus en France par une personne plus âgée, etc. Et voilà, ça a été un moment assez fort parce que je me suis dit waouh, enfin. Il m'a choisi pour déposer ça. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, évidemment, j'ai fait un signalement parce que c'est mon devoir. J'ai essayé de l'accompagner pour qu'il aille mieux. Et j'ai vu que ça l'avait soulagé de se libérer de ce secret, entre guillemets, que lui vivait comme si c'était de sa faute, alors que pas du tout. Et en fait, c'est très chouette parce que du coup, il revient me voir régulièrement. Voilà, il m'appelle ma reine, donc c'est trop mignon. Donc en même temps, j'essaie de ne pas rentrer. C'est ça qui peut être touchant et difficile à la fois, c'est qu'on sent qu'il y a des gens qui nous portent de l'affection, qui aimeraient peut-être qu'on soit amis, vraiment. Et en même temps, j'essaie de rester à la fois ouverte et chaleureuse et en même temps dans une posture professionnelle. Voilà, ce que je dis, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son amie. Donc voilà, donc faut toujours rester un petit peu dans cet équilibre. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous touchent plus que d'autres, pour des raisons qui nous échappent, je sais pas, une façon de raconter un morceau d'histoire. Par exemple, en ce moment, il y a une femme du Bangladesh qui est absolument adorable. On se comprend pas du tout, on utilise Google Translate pour parler. Et en fait, à chaque fois qu'elle finit son cours de français, elle vient dans notre bureau, en bas avec moi et ma collègue, pour rien, pour juste être ensemble. Et elle nous regarde et on rigole et des fois on se montre les photos de nos maris, de nos enfants, etc. Mais et voilà, et c'est tout. Et on sent qu'il y a de l'amitié derrière, quoi. Mais,
et ça vous permet aussi de découvrir la culture de l'autre.
Oui, 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 voilà, ça c'est super. Bah, l'autre jour, elle avait des dessins sur les mains, donc je lui ai demandé si elle avait été à une fête, etc. Et voilà. Donc il y a des gens qui vont être plus anonymes, qui vont juste revenir, repartir. Et puis il y en a d'autres avec qui on sent que il y a vraiment un lien qui se crée. Avec les enfants de la crèche aussi, il y a beaucoup de liens qui se développent, évidemment, parce qu'on les voit grandir. Voilà, ils nous sautent dans les bras quand ils passent le soir ou le matin, etc.
Qui vous finance ? À part le diocèse de Paris, peut-être.
Ouais, alors le diocèse de Paris, évidemment, la Fondation Notre-Dame, qui est un gros bailleur, évidemment, outil de financement aussi lié au diocèse qui soutient la Maison Vaquita. Et après, le reste de nos financements, ça va être des entreprises, ça va être des fondations qu'on va solliciter directement. Donc on peut citer par exemple le groupe Bouygues ou LVMH, des fondations hébergées par la Fondation de France par exemple, et puis voilà tout un tas d'autres, le Maillon, enfin, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Ça c'est un gros travail de longue haleine pour trouver tous ces partenaires.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, avez-vous un dernier mot ?
J'aurais envie de dire aux gens s'ils sont déjà dans cette rencontre avec des personnes exilées, voire engagées, qu'ils n'hésitent pas à témoigner dans leurs entourages de ce qu'ils font, parce qu'on a besoin de montrer que ça se passe bien, que ça produit de belles choses, donc ils n'hésitent pas à témoigner. Et si vous êtes une personne qui n'a jamais vu de près ce que c'est qu'un exilé, c'est possible, hein, c'est pas une critique, ça dépend des milieux sociaux dans lesquels on évolue ou professionnel, bah que n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces personnes, parce que très souvent, quand on entend à la télé, oui, tant de migrants, tant de population, quand on a des chiffres flous comme ça, ça représente rien, ce sont juste des chiffres. Mais quand on a en face de soi une personne, qu'on voit un prénom, un visage, une histoire, ça change tout. Donc voilà, osez la rencontre.
Oser la rencontre, c'est dit, de l'espoir, loin de chez soi. Et le thème que nous avons eu à développer ce soir avec Isabelle Cauchois, directrice de la maison Vaquita. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous.
Merci à vous.
Et à vous, chers auditeurs et auditrices, nous allons certainement nous retrouver la fois prochaine pour un nouveau sujet. Portez-vous bien. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.